Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'Iran est le berceau de la Perse antique, un lieu de brassage d'innombrables civilisations venues du bassin méditerranéen, du Caucase, de Haute-Égypte, d'Inde ou de Chine. Le pays recèle encore aujourd'hui de nombreuses minorités, témoins de ce riche passé parfois houleux. C'est le cas des Zoroastriens, un groupe religieux monothéiste antérieur à la conquête islamique qui subsiste en Iran bien qu'il ait fortement migré jusqu'en Inde au fil des siècles. Autre minorité mais non tolérée, les Bahaïs, groupe religieux également monothéiste, mais postérieur à l'islam, ce qui fait sans doute la différence. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
L'Iran et ses minorités religieuses, cette semaine dans Orient Hebdo, nous rendons visite à la communauté zoroastrienne de Téhéran. Le zoroastrisme est une religion reconnue par la République islamique, à la différence d'une autre minorité, les Bahaïs, dont la religion est interdite en Iran, comme nous le racontera l'un des fidèles rencontrés sur place. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Grand reporter à la rédaction de RFI, spécialiste du Moyen-Orient. Vous étiez en reportage en Iran il y a quelques semaines et vous avez pu visiter un temple du feu, lieu de culte pour les adeptes du zoroastrisme. Alors, qui sont-ils ?
Alors, le zoroastrisme, c'est une religion monothéiste qui a été la religion officielle de la Perse avant les conquêtes de l'islam. Les Zoroastriens croient en un dieu créateur, Ahura Mazda, en un prophète Zarathoustra, qui aurait vécu il y a 3750 ans, et en un ange gardien, Farvar, dont les ailes sont déployées au fronton des bâtiments de la communauté des Zoroastriens.
Et vous nous emmenez, Nicolas, dans l'un de leurs temples, que l'on appelle donc les Temples du Feu.
Ah oui, un bâtiment à colonnes, à l'architecture assez épurée. Nous visitons ce Temple du Feu avec deux membres de la communauté de Téhéran, Naïd et Farzad. Alors, ne dites pas à ces Zoroastriens qu'ils sont des adorateurs du feu. Ils vous rétorqueront qu'ils sont des gardiens du feu. Le feu qui a une importance centrale dans leur religion, et c'est Naïd qui nous l'explique.
C'est un temple du feu. Le feu, on les sauvegarde, on ne l'adore pas. C'est une source de chaleur qui, même avant notre religion, l'humain avait besoin de ça. Et le fait d'avoir des temples, c'est des gens qui ne pouvaient pas avoir du feu chez eux, qui pouvaient être ensemble dans un feu qui est gardé, sauvegardé pour toujours. L'utilisation, c'est multiple. Et en plus, c'est parmi les éléments qui restent toujours propres. Et quand on fait nos prières, on peut se référer en tout cas vers cette lumière-là, mais on se tourne vers la lumière principale, primordiale, qui est le soleil. Le soleil, c'est quelque chose qui nous oriente vers la bonté, vers le Dieu. Dieu principal, en tout cas dans notre vie, et c'est par rapport à ça qu'on se met pour prier. Les gens qui sont aveugles, qui ne voient pas, ils se réfèrent à l'esprit vivant dans leur cœur, cette chaleur qui existe, cette spiritualité qui existe en chacun de nous. Mais sinon, si par exemple quelqu'un est un voyageur dans le désert, il se réfère à la lumière de la lune ou des étoiles. Mais chaque être vivant doit avoir cette feu-là pour pouvoir se référer par rapport à cette pureté et cette chaleur qui existe dans le feu. Le respect du feu, ça vient de là.
Et cela veut dire que dans un temple du feu, il y a toujours une flamme allumée et entretenue.
Oui, quelque chose de symbolique.
Tu vas aller voir.
Merci. À l'intérieur du temple, il y a des chaises posées sur des tapis, puis au centre du bâtiment une petite pièce au milieu de laquelle trône une grande urne métallique, et dedans il y a un feu qui brûle et une personne vêtue de blanc qui entretient la flamme.
Je suis venu pour raviver en tout cas les cendres qui existent. J'ai ajouté des bûches de bois en tout cas, mais en morceaux. Et en plus, quelque chose de primordial que je dois vous dire, c'est que ces morceaux de bois ne doivent pas être mouillés en tout cas, qu'il n'y ait pas de l'eau. Même, je peux vous dire qu'on les laisse pendant un an pour qu'ils soient vraiment très très secs, pour ne pas justement salir l'eau qui existe et la vie qui existe dans ces morceaux de bois. J'ai ajouté autre chose, des bois de santal, des choses qui sont odorantes, de l'encens et autres, pour donner à ce feu encore plus de chaleur et aussi une sorte de senteur agréable. Quand je suis entrée, personne ne peut entrer, même la dame qui s'occupe ici de l'association ne peut pas entrer parce que c'est réservé qu'aux moubèdes. Et les moubèdes, pas comme dans des autres religions, on a autre chose à faire aussi dans la vie. Je fais ça parce que je me sens serviteur de ce feu. J'ai cette responsabilité de venir, mais je fais autre chose, ce n'est pas mon métier de venir ici. Mais j'ai accepté de venir ici et de travailler en tant que serviteur. Et comme on vous a dit, ça change. Il y a plusieurs personnes qui s'occupent de ce feu et le fait de le faire revivre et de le sauvegarder. En entrant dans cette pièce, je me couvre les cheveux et le visage, en tout cas, le nez et la bouche, pour un sorte de respect à ce feu-là.
Ainsi s'achève notre visite dans le temple du feu des Zoroastriens à Téhéran. L'homme qui entretient la flamme se présente comme un mobed. Qu'est-ce que cela signifie, Nicolas ?
Eh bien, c'est le prêtre chargé d'un certain nombre de rites dans la religion zoroastrienne, notamment l'entretien du feu, hein, comme on vient de l'entendre. Les femmes peuvent être également mobed.
Alors, le zoroastrisme et les Zoroastriens, donc, sont admis et même reconnus par la République islamique d'Iran.
Depuis la révolution de 1979, les minorités juives, chrétiennes et zoroastriennes sont reconnues et même représentées dans le système politique de la République islamique, avec notamment des sièges réservés pour ces minorités au Majlis, le Parlement iranien.
Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour d'autres minorités, Nicolas. Les Bahais, par exemple, qui sont-ils ?
Alors, le bahaïsme est une religion apparue au 19e siècle en Iran, religion monothéiste, là encore, religion dont le fondateur a dû s'exiler. Il a trouvé refuge dans l'Empire ottoman à l'époque, et c'est pourquoi aujourd'hui, le principal monument bahaï se trouve à Haïfa, dans le nord d'Israël. La religion bahaï revendique plusieurs millions de fidèles dans le monde, et en Iran, là où cette religion est née, ils sont considérés comme des hérétiques.
Une religion post-islam qui tente d'ailleurs de faire la synthèse entre les trois grandes religions monothéistes qui la précèdent. Nicolas, à Téhéran, vous avez rencontré un fidèle de cette religion interdite.
Oui, un chauffeur de taxi, et c'est en nous conduisant dans les rues de la capitale iranienne qu'il nous a parlé des interdits auxquels il est confronté en tant que bahaï.
C'est comme une sorte de répression qui est perpétuelle. Le fait d'être bahaï, c'est un crime.
Est-ce que vous en avez déjà directement subi les conséquences ?
C'est un gros problème parce que moi j'ai des enfants et mes enfants ne peuvent pas étudier à l'université. Ça représente un très grand problème pour moi, le fait que mes enfants ne peuvent pas s'instruire.
Ça veut dire que lorsqu'on est bahaï en Iran, on doit se cacher ?
Il n'y a pas de raison que je me cache des autres, parce que c'est ma religion.
On ne peut pas avoir de culte lorsqu'on est bahaï en Iran ?
Oui, c'est interdit. Vous savez, c'est une sorte de privation assez sévère parce que si on ne peut pas avoir nos cérémoniales, en tout cas de notre culte, c'est une sorte de privation. Par rapport aux musulmans, on est privé de cette liberté-là.
Que dit la République islamique ? Que disent les autorités sur votre religion pour justifier cette répression ?
Ils ne croient pas que c'est une religion. Pourtant, les Bahaïs, ils respectent l'islam et ils croient en prophète, à Mohammed, à cet Mohammed. C'est quelque chose d'erroné à notre avis. C'est pas la secte.
Une minorité religieuse manifestement sous pression en Iran.
Oui, la communauté bahaï dénonce des arrestations et des condamnations arbitraires de certains de ses membres, l'interdiction qui leur est faite d'accéder aux emplois publics, des fermetures forcées de leur commerce ou alors, on vient de l'entendre, hein, l'impossibilité d'accéder à l'université en Iran.
Nicolas Falaise, grand reporter à la rédaction Moyen-Orient de RFI, merci pour ce reportage à Téhéran sur deux minorités religieuses, les bahaïs et les zoroastriens. Le groupe Manouchane est basé sur un duo à la ville comme à la scène, formé d'Aïda, violoniste aux origines azéries, et de Babak, un guitariste qui a grandi dans la tradition chrétienne. Deux musiciens issus des minorités iraniennes qui développent une musique acoustique contemporaine aux influences de jazz manouche, comme le montre ce morceau, extrait de l'album Swing Me to Your Song. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la Syrie continue à être le sujet principal des articles et éditoriaux de la presse panarabe.
Oui, et plusieurs journaux estiment que Daesh, l'acronyme du groupe État islamique en arabe, cherche à faire de la ville syrienne de Deir ez-Zor sa nouvelle capitale pour remplacer Mossoul, dont la chute est imminente. Alors Deir ez-Zor est surnommée la perle de l'Euphrate. C'est une ville à l'est de la Syrie, près de la frontière irakienne. Avant le début du conflit en Syrie, la ville comptait plus d'un demi-million d'habitants, principalement descendants de tribus arabes, mais aussi des minorités kurdes, assyriennes et arméniennes. Les éditorialistes signalent aussi ce qu'ils estiment être le début d'une divergence entre Moscou et Washington après la publication d'informations selon lesquelles le président Donald Trump veut établir une zone d'interdiction aérienne en Syrie.
Donald Trump, parlons-en justement avec vous Michel, puisque les journaux israéliens préfèrent, eux, suivre pas à pas le nouveau président américain.
Oui, la presse israélienne se penche sur la première semaine du président américain avec des jeux de mots plus ou moins réussis, tels que Trumpolino. Pour Israel Hayom, Donald Trump tient ses promesses électorales. Le journal parle du nouvel ordre de Trump. Et le sujet qui revient le plus, c'est bien sûr la construction du mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. L'analogie est évidente avec le mur de séparation érigé entre Israël et la Cisjordanie à la suite de la vague d'attentats anti-israéliens. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, résume Yedioth Ahronoth. Attendre pour voir, propose Mariv, les grandes décisions sont encore encore à venir. Le journal consacre un dossier au transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et dans ce dossier, on peut voir la photo de la une du journal avec ce titre « Les États-Unis ont l'intention de faire passer leur ambassade à Jérusalem ». Mais Eric, c'était en octobre 1995. En d'autres termes, beaucoup de scepticisme ici dans la presse autour de ce sujet.
Et il y a aussi beaucoup question, Michel, des affaires dans lesquelles est impliqué le Premier ministre israélien.
Netanyahou contre-attaque et il vise notamment son prédécesseur Ehud Barak. Des échanges qui se produisent essentiellement à coups de posts sur Facebook et sur Twitter. Maariv cite le Premier ministre, on essaie de renverser le pouvoir de manière non démocratique. Un chroniqueur parle de la guerre des Juifs, un autre estime que Donald Trump sera le sauveur de Netanyahou en fin de compte. Et en attendant, tous les jours, de nouveaux détails apparaissent dans la presse sur l'enquête contre le Premier ministre et un débat également. Les fameux cadeaux reçus par Benjamin Netanyahou, le champagne et les cigares, sont-ils suffisants pour faire tomber le gouvernement ? A signalé ce titre du quotidien Haaretz, selon lequel, en marge de l'enquête, de nouvelles alliances politiques se forment.
Alexandre, vos journaux s'intéressent au duel franco-français Hamon-Valls, notamment en ce qui concerne leur vision de l'islam.
Oui, et le journal Al-Quds Al-Arabi écrit que les soutiens de l'ex-premier ministre français Manuel Valls ont lancé une campagne féroce contre son adversaire de la primaire de la gauche, Benoît Hamon. Une campagne accusant le maire de Trappes de favoriser les islamistes radicaux en vue de gagner les voix des musulmans, écrit le journal. Des accusations rejetées par Hamon qui a estimé que la laïcité ne devait pas être une épée menaçant les musulmans et les empêchant de vivre leur religion. Le journal souligne la passe d'armes des deux candidats sur le port du voile et l'émergence de ce qu'Al-Quds Al-Arabi qualifie de mouvement islamiste de gauche. La presse égyptienne, elle, avait applaudi les attaques de François Fillon contre les frères musulmans lors de la primaire de la droite.
Puis la presse arabe scrute également la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, notamment en Égypte et au Maroc.
Oui, et les deux pays doivent en effet s'affronter en quart de finale de la CAN ce dimanche. Même s'ils ont été seconds de leur groupe, les journaux marocains estiment que les Lions de l'Atlas partent favoris face aux Pharaons. Ils indiquent même que le Ghana s'est pratiquement laissé battre par l'Égypte pour ne pas être premier du groupe et devoir affronter le Maroc. Du côté de la presse égyptienne, on indique que le moment est venu de mettre un terme au complexe marocain. La dernière victoire des pharaons contre les Lions de l'Atlas remonte à 31 ans, plus précisément lors de la CAN de 1986 qui se jouait en Égypte. Les deux pays se sont rencontrés en 21 matchs officiels, 11 victoires pour le Maroc, 2 pour l'Égypte et 8 matchs nuls.
Michel, les Israéliens s'intéressent, eux, non pas à la CAN, mais au cannabis.
Oui, c'est le sujet qui fait la une de la presse du week-end. Il s'agit tout simplement d'un assouplissement de la politique de répression. Plus de poursuites judiciaires pour les utilisateurs de cannabis, juste une amende. Pour la presse, c'est la révolution verte. La logique l'a emporté sur les mensonges, titre un journal. Mais comme la nouvelle situation n'est pas très claire, alors dans tous les journaux, on trouve un guide de l'utilisateur.
Pour terminer, Michel, on finit avec votre photo du jour.
Eh bien, c'est la photo de Noor Kliger, journaliste de Yediot Aharonot, qui a participé aux cérémonies de la Journée internationale de l'Holocauste au siège de l'ONU. Déporté à Auschwitz, Kliger a réussi à survivre en se faisant passer pour un boxeur professionnel.
Oui, ce qui n'a pas empêché ce natif de Strasbourg d'être encore bien portant à 90 ans et demi. Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Je ne voudrais pas refermer cette émission sans vous signaler que le prestigieux prix littéraire francophone France-Liban a été attribué cette semaine à Sharif Majdalani pour son superbe roman Villa des femmes, publié au Seuil, une saga familiale qui restitue avec un grand sens du détail les années noires du déclenchement de la guerre civile et la fin d'un certain Liban. Le prix sera remis lors du Salon du Livre de Paris fin mars. La semaine prochaine, nous évoquerons les antagonismes et incompréhensions entre la science moderne et l'islam. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.
Géopolitique, le débat.